BFM Bourse, l'écho du monde.
Et justement, cette économie américaine, on va en parler avec Gilles Mouek, le chef économiste du groupe AXA. Il nous rejoint. Bonjour Gilles. Ravi de vous retrouver.
Bonjour.
Bon, on a des inscriptions hebdomadaires au chômage en petite hausse aujourd'hui, mais là n'est pas le plus important. En fait, on a des indicateurs un peu plus larges sur l'emploi qui sont meilleurs qu'attendus depuis le début de la semaine. On sent une forme de résilience du marché de l'emploi. On verra demain le rapport mensuel. On a les PMI des services aussi aux États-Unis qui ressortent au-dessus des attentes au mois de mai. Est-ce qu'on se retrouve dans une situation où on est tous à nouveau surpris de la résilience américaine en ce moment ?
C'est vrai qu'on a une situation du marché de l'emploi qui a l'air de se stabiliser alors qu'on avait des indicateurs jusqu'à il y a à peu près 2 mois qui étaient quand même un peu inquiétants. Pourquoi ? Parce qu'on a un redémarrage des offres d'emploi, on a eu aussi une baisse des licenciements, donc ça c'est évidemment un bon signe. On verra dans quelle mesure ça se reflète dans les indicateurs payroll demain, sachant que les payrolls, je répète à chaque fois, mais c'est une série statistique épouvantable, fortement révisée, incroyablement volatile. Mais c'est vrai que la plupart des indicateurs dont nous disposons nous disent que les choses se stabilisent plutôt du côté de l'emploi. Alors je ne sais pas si on peut parler de résilience générale aux États-Unis, parce que j'ai quand même l'impression qu'on a toujours cette dichotomie entre, d'une part, un secteur tech qui va extrêmement bien, même s'il ne produit pas d'emploi, et une économie traditionnelle américaine qui vivote un peu, avec des taux de croissance quand même beaucoup plus faibles. Et si on s'intéresse, par exemple, au PIB du premier trimestre qui avait été révisé à la baisse, avec 1,6% simplement de croissance annualisée, ce qui n'est pas génial pour les standards américains, eh bien, on avait une contribution à la croissance de la demande intérieure qui provenait à 40% du seul secteur de la tech. Donc voilà, une résilience d'ensemble, mais très déséquilibrée entre les secteurs.
Bah, Gilles, c'est le principal problème finalement de cette structure de la croissance américaine. De plus en plus, elle repose sur l'IA, donc sur le CAPEX, sur la possibilité pour les entreprises d'investir des dizaines de milliards de dollars. Est-ce que c'est bien sain ? Est-ce que ça vous inspire quand même quelque inquiétude, quand même, ce phénomène ?
C'est vrai qu'il n'y a pas de plan B. C'est-à-dire que si, pour une raison ou pour une autre, par exemple, une innovation technologique qui nous dirait qu'en fait, on peut réaliser à peu près la même capacité de calcul avec peut-être un peu moins d'investissement dans des centres de données. Donc, on est un peu à la merci d'un accident technologique de ce type-là, alors qu'on n'a pas vraiment de ressort particulièrement impressionnant dans ce qu'on peut appeler l'économie traditionnelle américaine. Donc ça, c'est une source de vulnérabilité. Et au sein même du secteur tech, même s'il n'y a pas de révision dramatique technologique, on a quand même des signes internes qui sont un peu problématiques. On a en particulier une augmentation assez forte du prix des inputs informatiques aux États-Unis. Ça, c'est très surprenant, c'est très rare. C'est-à-dire qu'on a fonctionné pendant 3 décennies, depuis qu'en fait on le mesure bien, avec une baisse du prix du matériel informatique aux États-Unis. On a perdu à peu près 30% en 10 ans avant en fait le Covid. C'est quand même beaucoup, et ça ça a permis en fait de maintenir un effort d'investissement assez important. Et depuis qu'on est sorti du Covid, on a une réaccélération assez forte du prix des produits informatiques. On le voit aussi dans les prix d'export sud-coréens, dans les prix d'export taïwanais. Donc l'ampleur en fait de l'investissement aujourd'hui nécessaire commence à se traduire par des tensions de coûts importantes qui vont bien évidemment venir rendre encore plus compliqué le financement de la poursuite de cet effort d'investissement. Ça, c'est la question du prix, elle est vraiment maintenant à regarder de près.
Et puisque vous évoquez le prix, on peut aussi évoquer les prix, l'inflation ici en Europe parallèlement. Et là, on revient de ce côté-ci de l'Atlantique. Gilles, dans une semaine pile, on saura si la BCE relève ses taux ou pas au mois de juin. C'est dans une semaine qu'elle annoncera sa décision. On sera ensemble d'ailleurs dans une semaine pour commenter sa décision. Vous la voyez venir, vous, la hausse de taux, la première depuis 2023 de la BCE ?
Ouais, j'ai l'impression que si la BCE devait sursoir à la hausse de taux, quelque part, je pense qu'on le saurait déjà. Alors, on aura peut-être des dernières indications avant la période de pause dans la communication de la BCE, mais j'ai l'impression qu'elle est effectivement à peu près, et pas certaine, rien n'est jamais certain, mais en fait très vraisemblable. La question pour moi la semaine prochaine, c'est plutôt les suites. C'est-à-dire que la BCE souhaite faire une hausse de taux, moi j'appellerais ça une hausse de taux d'avertissement, hein, pour essayer d'envoyer à tout le monde le message que la BCE ne laissera pas l'inflation déraper et qu'elle est prête à y répondre. Soit, et 25 points de base, ça ne change pas grand-chose à la situation. Mais je ne pense pas ou je ne souhaite pas que la BCE la semaine prochaine soit nécessairement très claire sur ce qu'elle souhaite faire par la suite. D'abord parce qu'il y a une incertitude de fond, à savoir qu'on ne sait pas quand le détroit d'Hormuz se réouvre, et aussi parce que pour l'instant, on n'a pas de signe avéré très net d'effet de transmission important du prix de l'énergie vers les autres secteurs de l'économie. Et tant qu'on n'a pas ces démonstrations-là, moi je ne pense pas que la BCE devrait nécessairement se mettre dans la position d'une série de augmentations de taux. Donc oui, probablement une hausse de taux la semaine prochaine, mais je ne pense pas et je ne souhaite pas que la BCE soit très déserte sur la suite.
Mais même si Isabelle Schnabel, elle, dit que même si le détroit d'Hormuz rouvrait, on aurait une pression sur les prix qui, elle, durerait.
Mais ça me paraît assez évident. On a une partie des hausses de prix qui sont déjà dans les tuyaux, ne serait-ce que les prix alimentaires, parce que la saison des semis, c'est maintenant. Et donc, même s'il y avait augmentation de l'offre de fertilisants, quelque part, c'est déjà trop tard, en tout cas dans l'hémisphère nord. Mmh. On a aussi tout ce qui se passe dans les lignes d'approvisionnement sur, par exemple, l'aluminium. Ça, les prix continueront à avoir un impact dans les mois qui viennent. Ça, c'est évident. Mais la question de fond, c'est est-ce qu'il y a ensuite transmission de la hausse des prix au salaire? Et ça, on ne le saura pas tout de suite.
Gilles Mouhenc, le chef économiste du groupe AXA, merci beaucoup Gilles. Dans une semaine, on aura la réponse donc à la décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. On sera ensemble pour la commenter, bien sûr, émission spéciale. Aude Kersulec aussi sera notre envoyé spécial à Francfort la semaine prochaine à l'occasion de cette réunion de BCE très, très attendue.